Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition de ce 30 avril 2020. John Linden à la présentation. Tout d'abord, les titres de cette édition. En Afrique du Sud, Denis Goldberg, figure de la lutte anti-apartheid, des compagnons de route et de captivité de Nelson Mandela, est décédé hier à 87 ans. Dans ce journal, nous irons en République centrafricaine où plus d'une trentaine de personnes ont été tuées dans des affrontements armés. Pandémie de coronavirus, nous ferons un état des lieux en Afrique et dans le monde avec plus de 3 millions de cas de contamination. La Corée du Sud, Hong Kong et Taïwan n'ont pas signalé de nouveaux cas ces derniers jours. Ici, aux États-Unis, près de 30 millions de personnes ont perdu leur travail. Et au plan économique, le président Trump avertit que le pire est à venir. Et puis, ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir. En Guinée, l'ONG Human Rights Watch accuse le pouvoir d'entraver la nécessaire coopération de la population dans la lutte contre le coronavirus en procédant à des intimidations et à des arrestations d'opposants dans un contexte de restriction des libertés liées à la maladie et de crises politiques persistantes. Au Burkina Faso, le coordonnateur de la lutte anti-coronavirus, le professeur Martial Ouédraogo, a été démis de ses fonctions après une controverse sur les causes du décès de celle qui a été présentée comme la première victime du COVID-19 en Afrique. La députée d'opposition et deuxième vice-présidente de l'Assemblée, Rose-Marie Compaoré, est décédée le 18 mars. Sa famille a émis des doutes sur les causes de sa mort en affirmant n'avoir jamais reçu son dossier médical. Nous y reviendrons en partie magazine de ce journal. En Afrique du Sud, Denis Goldberg, militant anti-apartheid, compagnon de route et de captivité de Nelson Mandela, est décédé la nuit dernière à l'âge de 87 ans. Les précisions de Nathalie Barge.
Né de parents communistes, le jeune ingénieur a rejoint au début des années 60 la branche armée de l'ANC pour combattre le régime raciste de l'époque. Denis Goldberg a été arrêté en 1963 avec d'autres leaders anti-apartheid, dont Walter Sisulu, Govan Mbeki et Andrew Mlangeni. Il a été condamné à la prison à vie aux côtés de Nelson Mandela et séparé de ses compagnons de lutte, incarcéré à la prison de Robben Island. Denis Goldberg a été détenu pendant 22 ans dans un pénitencier de Pretoria. Libéré en 1985, il a continué à faire campagne contre l'apartheid jusqu'aux premières élections démocratiques qui ont porté Nelson Mandela au pouvoir le 27 avril 1994. Le président Cyril Ramaphosa a salué son engagement déterminé en faveur d'un leadership éthique et le prix Nobel de la paix Desmond Tutu a vanté ses valeurs humanitaires, pragmatiques et sa compassion naturelle.
En RCA, plus d'une trentaine de personnes, en majorité des civils, ont été tuées dans des affrontements armés dans le nord-est du pays. Cela s'est passé hier et aujourd'hui au cours des affrontements entre groupes rebelles rivaux dans la ville de Ndélé. À Bangui pour VO Afrique, Freeman Sipila.
Les combats ont éclaté mercredi aux environs de midi aux alentours du marché central de Ndélé. Des tirs à l'arme lourde et légère ont secoué durant plusieurs heures les quartiers situés non loin du centre-ville, provoquant des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Même si un bilan précis n'est pas encore établi, des sources locales contactées par VOA Afrique parlent de plus de 20 morts pour la plupart des civils, des dizaines de blessés par balles et plusieurs maisons incendiées. Les combats ont opposé trois groupes armés rivaux de l'ex-rébellion Silica, notamment le FPRC, le RPRC et le MLCJ. Pour le moment, on ignore les raisons exactes de ce regain de violence. Dans un communiqué, le FPRC, principal groupe armé qui contrôle la région, dénonce une attaque lâche et barbare de la coalition RPRC et MLCJ contre la population, demandant la démission des responsables de ces mouvements au sein du gouvernement. Pourtant, à Bangui, le gouvernement a tenu en début de semaine une réunion d'urgence sur la situation sécuritaire en Ndélé. Kabylie. Freeman Sipila Bongi pour VOA Afrique.
À ce jour, l'Afrique compte près de 1600 décès sur 36 000 cas. De plus en plus de gouvernements imposent le masque avec le début des déconfinements. Nanit Talani nous en dit plus.
En Tanzanie, l'opposition dénonce le manque de transparence du pouvoir face à la propagation du coronavirus, accusant le président John Magufuli de persister dans le déni. La Tanzanie a fermé les établissements scolaires, mais les commerces et les transports fonctionnent normalement. Au Burkina Faso, l'opposition demande la démission du ministre de la Santé dans le sillage de la polémique sur les causes du décès d'une députée présentée comme la première victime du coronavirus en Afrique subsaharienne. Dans plusieurs pays, les mesures du confinement sont assouplies, mais le port du masque devient obligatoire, comme en Afrique du Sud et au Nigeria. Le Cameroun a imposé le port d'un masque le 9 avril, suivi par beaucoup d'autres pays. Pénurie ou manque de moyens, la règle est loin d'être toujours respectée. Le Tchad avait décrété le masque obligatoire, mais est revenu sur sa décision faute de matériel disponible. Les contrevenants risquent parfois l'arrestation, comme au Libéria ou en Guinée. En RDC, l'isolement du quartier d'affaires de la Gombe, dans le centre de Kinshasa, inquiète les milliers de vendeurs de rue qui ne peuvent plus gagner le pain quotidien.
Au Cameroun, le gouvernement veut empêcher la collecte de fonds initiée par le principal opposant Maurice Kamto pour lutter contre le coronavirus. Yaoundé juge l'initiative illégale et ordonne à deux opérateurs téléphoniques de fermer les comptes mobiles ouverts pour cette opération baptisée « Survie Cameroun Survival Initiative ». En Libye, le maréchal Khalifa Haftar dit accepter une trêve à l'occasion du mois de jeûne du Ramadan. Son rival, le gouvernement d'Union nationale, n'a pas encore réagi. Des explosions ont été entendues dans la capitale après l'annonce de cette énième trêve. Les forces pro-Haftar tentent depuis un an de s'emparer de la capitale Tripoli. L'ONU, l'Union européenne et plusieurs pays ont appelé il y a une semaine à un cessez-le-feu à l'occasion du mois de Ramadan. Amnesty International a appelé jeudi les autorités algériennes à libérer le journaliste Khaled Rahrani en détention préventive depuis fin mars et à mettre fin au harcèlement ciblé des médias. Khaled Rahrani est le fondateur du site d'information en ligne Kashba Tribune. Actuellement incarcéré à l'ouest d'Alger, il est accusé d'incitation à un attroupement non armé et d'atteinte à l'intégrité du territoire après avoir couvert le 7 mars dernier à Alger une manifestation anti-régime.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, près de 4 millions de personnes se sont ajoutées cette semaine sur la liste des demandeurs d'emploi, portant à plus de 30 millions le nombre de personnes ayant perdu leur emploi en 6 semaines. Abdourahmane Dia.
Ces nouveaux chiffres ont été annoncés ce jeudi par le département du travail. Les analystes étaient un peu plus optimistes et ne s'attendaient qu'à 3 millions de nouvelles demandes d'allocation de chômage pour la semaine du 19 au 25 avril. Le niveau reste historiquement élevé, mais recule par rapport à la semaine précédente qui avait vu 4,4 millions de nouvelles demandes. La dernière semaine du mois de mars détient le record historique avec plus de 6,8 millions de nouvelles demandes. Ce matin, la Bourse de New York a réagi négativement à ces nouveaux chiffres. Les mesures de restriction imposées par les autorités ont forcé plusieurs entreprises à fermer temporairement leurs portes, mais plus de la moitié des États vont commencer à partir de ce week-end à assouplir ces mesures et permettre la réouverture progressive de leurs économies. Depuis fin mars, le Congrès a alloué plus de 3 000 milliards de dollars aux entreprises et aux citoyens dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.
Plus de 3 212 000 cas d'infection au COVID-19 ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires. Le virus a fait plus de 228 000 morts et au moins 908 000 sont considérés comme guéris. On fait le point sur la pandémie avec Eric Manirakiza.
Les États-Unis restent le pays le plus touché avec plus de 61 000 morts et le nombre d'infections dépasse le million. L'Europe totalise plus de 136 morts. L'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne et la France sont les plus affectés. La Chine, berceau de la pandémie, a officiellement dénombré plus de 4600 décès. Les Maldives ont annoncé hier le premier décès lié au virus sur leur sol. Pour la première fois en 72 jours, la Corée du Sud a annoncé jeudi n'avoir enregistré aucun nouveau cas. La Corée du Sud a été le deuxième pays le plus touché, mais a très vite lancé des mesures de distanciation sociale et une vaste campagne de dépistage et d'identification des personnes qui ont été en contact avec des porteurs de la maladie. D'autres régions d'Asie semblent aussi être en passe de maîtriser l'épidémie. Hong Kong n'a enregistré aucune nouvelle contamination depuis 5 jours, et pareil pour Taïwan, qui n'a pas signalé de nouveaux cas depuis 4 jours.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle avec Nani Talani.
South African Airways va fermer définitivement ses portes. La fermeture des aéroports a aggravé sa situation financière déjà très difficile. Ses employés n'ont pas perçu leur salaire depuis le mois de mars. Des négociations sont en cours sur la meilleure voie à suivre et des indemnités de licenciement pour les quelques 5000 employés. Une nouvelle société aérienne pourrait remplacer South African Airways et les employés seront maintenus. L'État aura très peu d'influence sur la gestion de cette future compagnie. La Côte d'Ivoire devrait produire environ 730 000 tonnes de noix de cajou en 2020, alors qu'elle s'attendait à une récolte de 800 000 tonnes. Le Conseil du coton et de l'anacarde, cité par l'agence Ecofin, explique cette révision à la baisse par l'insuffisance des pluies dans le nord du pays, principale zone productrice d'anacarde. Le COVID-19 a ralenti les achats et provoqué la chute des prix. La tonne d'anacarde coûte 900 dollars contre 1400 auparavant.
Et nous retrouvons Yacouba Ouédraogo et c'est pour parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La Ligue guinéenne de football professionnel a définitivement mis fin à ses championnats de Ligue 1 et Ligue 2 à cause du Covid-19. Nous ne savons pas quand est-ce cette pandémie va partir. Avec l'approche de la saison des pluies et la présence de la pandémie, nous nous sommes dit très rapidement qu'il fallait arrêter le championnat. La fédération doit communiquer la liste des représentants des compétitions africaines pour la saison prochaine, a déclaré le président de la Ligue guinéenne de football professionnel, Mathurin Bangoura, cité par le site Foot 224. Il a ajouté qu'il n'y aura pas de montée en Ligue 1 ni de descente en Ligue 2 pour la prochaine saison 2020-2021. Fin de championnat également au Kenya, les matchs restants de la saison de la Ligue de football ont été annulés. Avec la nouvelle annonce du président Uhuru Kenyatta prolongeant la cessation des mouvements à Nairobi de 21 jours supplémentaires, il n'y a aucun moyen que la Ligue se termine d'ici le 23 mai, a annoncé Nick Mwendwa, président de la Fédération kenyane de football. Gor Mahia, classé premier avec 7 points d'avance sur Kakamega Homeboyz avant l'arrêt, a été déclaré champion. Il représentera le Kenya en Ligue africaine des champions la saison prochaine. Au Mali, le ministre des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile, Amadou Thiam, a fait un don de masques à la presse sportive pour lutter contre le coronavirus. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré.
C'est en tout 6000 masques, ou encore appelés cache-nez, qui ont été offerts à beaucoup d'associations maliennes dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Et l'Association des journalistes sportifs du Mali, AGSM, fait partie des bénéficiaires avec 320 masques. Lors de la cérémonie de remise, le ministre Amadou Thiam a félicité la presse malienne dans son ensemble. Selon lui, les journalistes sont en première ligne du combat de sensibilisation contre le Covid-19. C'est ce qui justifie ces dons, a-t-il indiqué, avant de poursuivre qu'il ne sera pas non plus le dernier. Quant au président de l'Association des journalistes sportifs du Mali, Oumar Baba Traoré, il a remercié les autorités maliennes pour le geste qu'il qualifie de noble. L'AGSM, selon lui, comme par le passé, ne sera pas en marge dans la lutte contre le coronavirus. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, Maggie Haney, ex-entraîneuse de l'équipe olympique américaine de gymnastique, est suspendue pour 8 ans. La technicienne de 42 ans est accusée de maltraitance envers des athlètes, les obligeant à s'entraîner malgré des blessures. Deux de ses illustres disciples l'ont chargée, Laurie Hernandez, médaillée d'or au concours par équipe à Rio en 2016, et Riley McCosker, membre de l'équipe championne aux Mondiaux 2018 à Doha En 2018, Larry Nassar, ancien médecin de l'équipe nationale, a été condamné à une peine de prison pour avoir sexuellement agressé des dizaines de sportives.
Voilà ce qu'on pouvait dire en sport. Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Linden en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour et on commence par la RCA, la République centrafricaine, où François Bozizé rompt en nouveau le silence. Il balaie du revers de la main les accusations de tentative de coup d'État et dénonce une chasse aux sorcières contre son clan. Concernant le projet de la modification partielle de la Constitution, il appelle le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, à la prudence. Freeman Sipila, notre correspondant à Bangui, a obtenu un entretien exclusif avec l'ancien président François Bozizé.
La situation est difficile, gravement difficile, et c'est la conséquence des événements qui m'ont contraint à quitter le pays et passer proche de 7 ans d'exil à l'extérieur. Le pays est complètement détruit, une grande partie du territoire est occupée par les rebelles et l'économie est par terre, l'administration n'existe presque pas et nous y sommes et c'est pas facile.
Vous parlez d'une chasse aux sorcières menée par le régime du président Touadéra contre votre clan. Quelles en sont les raisons?
Vous savez, nous nous approchons des élections. À partir de là, tout est permis, toutes les stratégies sont mises en marche. Et lorsqu'il s'agit d'un candidat aussi populaire que Bozizé, je vous laisse le soin de deviner que toutes les stratégies, bonnes ou mauvaises, on peut les utiliser pour pouvoir écarter X, Y, Z. Et je pense bien, nous le vivons. Et c'est un phénomène de peur, d'inquiétude depuis mon arrivée.
Vous pensez que votre retour au pays fait peur?
C'est ça, exact. J'ai rencontré le chef de l'État à plusieurs reprises. Nous nous sommes parlé franchement. Je l'ai rassuré que je suis venu pour la paix, non pas pour nuire à qui que ce soit. Et que tout doit se dérouler dans le cadre démocratique. Je me limite à cela, tout simplement.
Un projet de révision partielle de la Constitution est en cours. Elle est initiée par une partie des députés afin d'éviter un vide constitutionnel au cas où les élections ne se tiennent pas en décembre prochain en raison du Covid-19. Qu'est-ce que vous en dites?
Non, c'est une situation qui n'est pas bonne. Elle est dangereuse et elle est inopportune. Nous avons plusieurs défis. La sécurisation du pays, la pandémie du Covid-19 et maintenant ajouter encore des problèmes d'ordre social, politique. Non, il faudrait bien éviter cela et nous demandons au chef de l'État de un peu plus de sagesse et éviter à ce que nous connaissons ceux que nous avions connus auparavant. Et si aujourd'hui le pays se trouve dans cet état, c'est bien les conséquences du non-respect de la Constitution à l'époque.
Vous avez modifié la Constitution en 2010. Est-ce que ce n'est pas le même schéma?
Non, en 2010, la Constitution le permettait. Et c'est pour cela que l'Assemblée nationale a voté cette loi. C'était à l'époque où j'étais président de la République. L'opposition souhaitait que ce soit un accord politique qui puisse résoudre cela. Alors que la Constitution était là, il fallait l'appliquer. C'est ce que l'Assemblée nationale avait fait à l'époque. Or, la Constitution actuelle ne le permet pas. C'est bien précisé, il n'est pas question de quoi que ce soit.
Vous n'avez pas peur d'être appelé un jour devant la justice?
Oh, vous savez, j'ai la conscience tranquille.
François Bozizé, ancien président centrafricain.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
En République démocratique du Congo, les Banyamulenge ont saisi le secrétaire général de l'ONU pour faire cesser les exactions dont ils disent être l'objet dans les hauts plateaux du Sud Kivu de la part des milices locales et des pays voisins. Pour évoquer cette actualité, Eddie Isango a joint ici aux États-Unis le vice-président de Mahoro Peace Association, Jacques Mourinda.
Des témoins oculaires font état de certains éléments de la FRDC qui assistent le milicier à leur donnant une aide, soit en termes de logistique, pour attaquer le village Banyamulenge, pour piller leurs vaches. Nous avons demandé à ce que les Nations Unies puissent intervenir en fait de protéger la population Banyamulenge en parlant à notre gouvernement, en envoyant aussi l'aide humanitaire. Il y a des villages entiers de déplacés. Ça fait de cela plus de 6 mois qu'ils sont dans ce village sans aucune assistance humanitaire. Ils sont vraiment affamés, ils sont sans accommodation, sans maison, sans quoi. Donc nous avons demandé à ce qu'ils puissent assister ces déplacés de guerre. L'autre demande que nous avons réitérée au niveau de la Secrétariat des Nations Unies, c'est de parler aux pays voisins, afin qu'ils puissent collaborer avec notre pays, afin de pouvoir arrêter ces miliciens étrangers qui sèment la terreur et la mort à une population innocente de Banyamulenge, de villageois qui n'ont commis aucune faute. Nous avons demandé à ce qu'ils interviennent, qu'ils parlent aux pays voisins, notamment le Burundi, le Rwanda et les autres pays qui sont de près ou de loin impliqués dans ce genre de conflit, afin de pouvoir faire la pression, de combattre ces miliciens, de les arrêter, de les traduire en justice. C'est leur travail, ensemble, bien sûr, avec notre pays, la RDC. Nous avons aussi parlé de désarmement même des miliciers Maïmaï par notre gouvernement et de pouvoir intervenir surtout dans le domaine de restaurer la paix, mais aussi l'effectivité même du pouvoir de l'État dans cette partie du pays où c'est vraiment la jungle, où c'est le milicien qui sème de la terreur et la mort. Ce qui se passe pratiquement, c'est de l'épuration ethnique et ce n'est pas vraiment admissible.
Il y a eu beaucoup de négociations et ce qu'on a appelé des pré-dialogues entre les communautés dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné ? Qu'ont-ils donné ?
Les recommandations, par exemple, quand je parle du cas des Banyamulenge qui ont été soumis au gouvernement, c'est devenu franchement donc lettre morte. Nous attendons encore une fois qu'il y ait une réunion intercommunautaire après la série des réunions intracommunautaires. On ne sait pas pourquoi. Apparemment, avec le COVID-19, tout a été arrêté ou reporté à une date ultérieure.
Autant que vous accusez les autres groupes ethniques et leur milices, d'autres groupes ethniques vous accusent aussi, vous et votre groupe, la milice Ngoumino, de les attaquer.
C'est pas vrai parce que tout le monde sait que les populations qui sont visées sont les populations Banyamulenge qui sont attaquées par les forces négatives et Maïmaï, Retabara, donc Foribou et FNL. Nous savons et nous avons toujours déploré que en fait, le problème principal c'est la manipulation même des miliciens Maïmaï par les forces étrangères qui ont d'autres visées et qui viennent semer la terreur dans notre pays.
Jacques Morinda, le vice-président de Mahoro Peace Association.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
La première victime du COVID-19 en Afrique subsaharienne est-elle vraiment décédée de la pandémie? La question fait polémique au Burkina Faso après qu'un journaliste d'investigation a révélé que la députée Rosemarie Compaoré n'a jamais été testée pour le COVID, contredisant la version officielle. Le gouvernement semble admettre ces faits et a démis de ses fonctions mercredi le professeur Martial Ouédraogo, qui était le coordonnateur de la lutte contre la pandémie dans le pays. Retour sur la genèse de cette controverse nationale au Burkina Faso avec Yacouba Ladji Baba, le célèbre journaliste d'investigation par qui tout a commencé.
Au-delà de la simple annonce que la dame est décédée de ce virus, rien, absolument rien, ne venait, en tout cas, attester qu'il s'agissait vraiment de ce virus-là. Quand je dis rien, ça veut dire quoi? D'abord, on annonce que la dame est décédée du coronavirus. Le bulletin d'examen qui atteste cela est invisible. La famille demande d'avoir le bulletin. Impossible de leur donner ce bulletin. Ensuite, le prélèvement qui a conduit à ce prétendu examen qui révèle ce virus, le mari de la défunte n'a jamais été informé à un moment donné qu'on devait faire un prélèvement sur sa défunte épouse pour aller faire un examen. Ensuite, absolument rien, plusieurs jours après le décès, absolument rien n'a été pris comme précaution. Non seulement le domicile n'a pas été désinfecté, le mari n'a pas été testé pour voir où il en est, est-ce qu'il est contaminé ou pas, résolument pas du tout.
La ministre de la Santé était devant les députés, elle a été interrogée sur la question, qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle a menti à l'Assemblée nationale que le domicile avait été désinfecté et que la famille avait bénéficié d'un certain suivi, contrairement à ce que la police disait jusque-là. Alors, quand ça a été dit devant l'Assemblée nationale, en sachant que la réalité était tout autre, alors franchement, ça suscitait encore plus d'indignation dans l'opinion. Les réseaux sociaux se sont emballés et elle était obligée, face à cette pression-là, d'entendre ses collaborateurs qui lui ont avoué que le domicile n'a jamais été désinfecté ni la famille n'a jamais été rencontrée par aucun service médical ou quoi que ce soit. Alors, donc, quand elle a fait ses aveux là, nous les avons encore rapportés à l'opinion. Et là, voilà, ça conduit au limogeage du coordonnateur national de la réponse à la COVID-19 au Burkina Faso.
Alors, vous qui suivez ce dossier depuis le début, est-ce qu'il s'agit d'incompétence, d'erreur, ou bien est-ce qu'il s'agit juste de mensonges à ce niveau de l'État?
Moi, je veux dire que c'est une conjugation d'incompétence et de mensonges à la fois. Incompétence et mensonges parce que, comme je l'ai déjà expliqué, il y a eu beaucoup de mensonges dans cette affaire depuis le départ. Et ce n'est pas que ce cas seulement, hein. Il y a beaucoup de cas à polémique comme ça, de décès au Burkina, où les parents ne sont pas du tout d'accord que leur regretté soit vraiment mort de la COVID-19. Il y en a beaucoup. Les exemples sont tellement nombreux que souvent on se demande si vraiment ce gouvernement est sérieux.
Yacouba Ladji Bama, rédacteur en chef du Courrier Confidentiel, il a été joint à Ouagadougou.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la pandémie du COVID-19 et ses conséquences sur l'ordre économique et diplomatique mondial. La propagation du nouveau coronavirus a fait subir des pertes énormes aux économies des pays les plus riches et fragiliser davantage celles des pays en développement. Cette crise sanitaire va-t-elle impulser une nouvelle dynamique dans les relations internationales? Quel rôle l'Afrique peut-elle jouer dans un monde post-Covid-19? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi 30 avril 2020 à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le Ghana s'est engagé à construire des hôpitaux et à prendre le meilleur parti des nouvelles technologies pour mieux répondre à l'épidémie de COVID-19. La société Zipline de la Silicon Valley utilise des drones pour transporter dans des laboratoires des échantillons prélevés sur des patients infectés par le virus afin de permettre au gouvernement de surveiller plus rapidement la propagation de la maladie. C'est un récit de Nathalie Barge sur le reportage de Stacy Nock à Accra.
Dans un discours à la Nation le 26 avril, le président Nana Akufo-Addo a déclaré que le coronavirus avait exposé les lacunes du système de santé ghanéen en raison d'années de sous-investissement et de négligence. Il s'est engagé à faire des investissements majeurs dans les infrastructures, avec notamment la construction de 88 hôpitaux de 100 lits.
Nous ferons ces investissements dans notre système de santé, non pas parce que cela va être facile, mais parce qu'il est évidemment nécessaire de répondre aux besoins du Ghana du 21e siècle.
Monsieur Akufo-Addo a déclaré que le virus a également mis en évidence le rôle crucial des services d'urgence. Il a fait référence à la société Zipline qui opère depuis un an et joue un rôle actif dans la lutte contre le virus. L'entreprise fournit des échantillons de tests COVID-19 provenant des zones rurales aux deux laboratoires de tests du pays à Accra et Kumasi. Elle envoie également du matériel de protection aux centres de santé ruraux. À partir des centres de distribution, les livraisons sont envoyées par drone qui met en moyenne 30 minutes pour arriver à destination, précise Daniel Marfaux, directeur de Zipline au Ghana.
Dès qu'ils ont un cas suspect de COVID-19, ils contactent Zipline. Grâce au transport multimodal, nous sommes alors en mesure de les atteindre, de prendre leurs échantillons, et le drone les amène au laboratoire à partir de notre centre de distribution.
Cosmas Tibé Makou, un agent de contrôle de la maladie, utilise les drones de Zipline pour livrer des échantillons de patients dans le district rural de Sékéré Central, où la plupart des routes sont en mauvais état.
Une fois prélevés, les échantillons doivent arriver au laboratoire dès que possible afin d'assurer la qualité du test. Ainsi, en comparant la méthode traditionnelle de transport, qui est par la route, et la technologie des drones, on se rend compte que le transport d'échantillons par zipline est plus judicieux en termes de temps, de coûts et de risques.
Les agents de santé disent espérer que les services de drones soient étendus au transport d'autres types d'échantillons médicaux et que ce procédé puisse continuer après la pandémie de coronavirus.
C'est la fin de cette édition mise en onde par Lionel Gaïma. John Lydon était à la présentation. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et à vous d'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.
Avec vous, Henri François.